Les podcasts d'AFDS.TV. Les chroniques d'Aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Rouge Wou, Sarah Sepulcre.
Pour être célèbre et sûr de le rester, certains inscrivent leur nom au générique de dizaines et de dizaines de séries, Aaron Spelling par exemple. D'autres comme David Kelley jouent sur un plus petit nombre de créations mais totalement contrôlées du premier au dernier mot. Il y a encore la méthode premier de classe que de la qualité scénaristique et du brio esthétique à la Steven Bochco, puis il y a la façon Bruce Geller, coûteuse, éphémère mais culte. Geller, rien à voir avec Monica et Ross, est le créateur de Mission Impossible. Dan Briggs est le chef de Mission Impossible, une équipe d'agents spéciaux. Il sera remplacé par Jim Phelps dès la seconde saison. Sous leurs ordres, l'équipe de l'âge d'or était composée d'agents aux qualités très différentes et qui se complétaient. La top modèle Cinnamon Carter jouait de son charme. Rollin Hand était prestidigitateur et transformiste et déployait donc ses talents d'arnaqueur. Barney Collier, ingénieur en électronique, était un bricoleur de génie. Enfin, la puissance physique était incarnée par Willie Hermitage, le champion de culturisme. Mais il faut bien être honnête, pratiquement personne ne se souvient des noms des personnages. Le culte Mission Impossible, aujourd'hui, il tient à d'autres éléments. Or, ces éléments efficaces, on les doit à Bruce Geller. Les trois premières scènes de l'épisode sont courtes et servent à présenter l'intrigue. Dans un endroit plutôt improbable, le chef découvre une bande magnétique qui s'auto-détruit. Il prend connaissance des éléments de la mission. De retour dans son bureau, il choisit les agents qu'il alignera. Enfin, il les convoque pour leur expliquer comment ils vont agir. En quelques minutes, Geller explique ce que les autres séries disent en un acte complet. Mission Impossible, c'est aussi un style du silence, puisque les agents ne communiquent pas pendant les missions. Ils se contentent de regards ou de signes. La série se caractérise enfin par son montage rapide. Des inserts sur des objets, par exemple, étaient utilisés pour rythmer les séquences. Quand le programme arrive sur les écrans, l'Amérique adore les séries d'espionnage. Destination Danger, des agents très spéciaux, Max la menace... Il pullule, peut-être parce que c'est la guerre froide. Mission Impossible sera d'ailleurs truffée de méchants aux noms à consonance cubaine ou soviétique, de pays d'Afrique sous le joug de dictateurs ou de pays de l'Est. Pas plus que d'autres, elle n'est à l'abri d'un manichéisme simpliste, mais contrairement aux autres, Bruce Geller délaisse l'action. Les agents ne mènent pas l'enquête, ils savent déjà tout. Leur seul boulot est de neutraliser l'ennemi en le trompant, en le menant dans un traquenard. La série était au départ un projet de film imaginé par Bruce Geller et Bernard Kowalski. The Bread Squad était l'histoire d'une équipe des forces spéciales chargée de missions discutables en temps de guerre. Sous les ordres du lieutenant-colonel David Briggs, on aurait retrouvé Barnett Collier, Willie Armitage et Martin Land. Bruce Geller l'aurait écrit plusieurs fois, il fait de l'équipe des agents spéciaux et il ajoute une femme. Il décide de présenter son script à la Daisy Liu. Il ne se fait pas d'espoir, mais si un pilote est tourné, il pourra ensuite le proposer au studio de cinéma. Lucille Ball ne comprend rien au scénario, mais son mari de l'époque l'adore. Elle lui fait confiance et tourne le pilote contre l'avis de Mike Mann, alors responsable de la programmation à CBS. Mike Mann pensait que le montage serait trop rapide, que le style bousculerait trop les habitudes des téléspectateurs. Il craint encore que la série coûte trop cher et qu'elle ne puisse garder sa qualité sur la longueur. Lucille Ball le menace d'interrompre I Love Lucy si CBS n'achète pas la série. L'affaire est conclue. Sur deux points, Mike Mann avait eu raison. Mission Impossible dépasse systématiquement les budgets. Geller était un perfectionniste, il multipliait les prises, les détails de préparation et il exigeait un générique différent pour chaque épisode. Mike Mann disait aussi qu'un tel niveau de qualité serait difficile à tenir sur la longueur. Tant que Geller eut le contrôle de la série, cela ne posa aucun problème. Après une première saison un peu bavarde et insouciante, les meilleures années de la série sont les deuxième et troisième. Ensuite, l'âme du programme se dilue peu à peu, la Daisy Liu est vendue à la Paramount et le studio familial se transforme en grande entreprise. Barbara Bain et Martin Landau remettent leur démission avant la quatrième saison. Bruce Geller est remercié pour la cinquième, il conservera juste le titre de producteur exécutif. Avant Mission Impossible, il avait collaboré à L'Homme à la carabine et Have a Girl We Travel, une série inédite en Europe. Avec Bernard Kowalski, il avait ensuite enchaîné avec Rawhide, la série qui a lancé Clint Eastwood. Après Mission Impossible, il entre à la MGM et produit quelques films comme Gorky ou Harry in Your Pocket. Il joue ensuite le rôle de son père, qui était juge à la Cour suprême dans un téléfilm relatant un procès réel. Il produit Bronk, une série avec Jack Palance. Le 21 mai 1978, il décède dans un accident d'avion. Il n'aurait été l'homme que d'une seule série, mais quel impact.
Les podcasts d'AFDS.TV. Aux frontières des séries.